Bonjour, bonjour à tous. Alors, bienvenue sur ce webinaire Veritas Technologies, hein, organisé en partenariat avec Acteurs Publics. Nous allons parler. Alors, ce titre fait peur, mais j'espère que ça n'a pas effrayé les participants. Nous sommes combien là maintenant? Et est-ce qu'on peut commencer? Voilà. Nous sommes déjà 21 personnes. Je vous propose de commencer doucement et puis. Les uns les autres nous rejoindrons. On a un planning de travail assez chargé. Alors, je voudrais d'abord vous dire que, est-ce qualité de directeur d'acteurs publics, je suis toujours ravi d'organiser cette traditionnelle rencontre de Veritas Technologies en début d'année, d'animer, pardon, cette rencontre. Je voulais féliciter Veritas et puis, comme eux, tous ceux qui n'ont pas renoncé à tenir leurs événements, qui ne les ont pas décalés et qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient justement pour maintenir. Allez, ça fait quand même quelques années, on peut presque parler de tradition. Et puis vous le verrez, bien sûr, ça ne peut pas remplacer le plaisir qu'on a à se rencontrer, mais la plateforme qu'on utilise là permet un certain nombre de choses et je vous engage à les utiliser. Vous voyez, vous pouvez, dans l'onglet à droite de votre écran, vous voyez la liste des participants. Vous avez la possibilité de chatter entre vous, vous avez la possibilité de poser des questions et vous avez la possibilité, et on va vous mettre à contribution, de répondre à un sondage dans quelques instants. Alors, est-il encore besoin de présenter Veritas Technologies au secteur public français? Parce que Veritas a déjà un certain nombre de partenaires sur ce marché. Veritas est bien connu pour ce service en matière de protection et de disponibilité, de visibilité des données. Et ces références dans le secteur public sont aujourd'hui, secteur public français, importantes. Je peux parler de l'UGAP, de la Direction des achats de l'État, de la DIRISI, mais aussi dans les grands ministères, l'éducation, la santé, le travail. Je ne peux pas tous les énumérer, mais l'intérieur, la justice, dans le monde hospitalier également, alors là, avec des références très nombreuses. Et puis de grandes collectivités, de nombreuses collectivités, mais de grandes collectivités aussi, utilisent les services de Veritas. Je ne citerai que la région PACA, ou pour ne pas faire de jaloux et d'aller du sud au nord, la région Hauts-de-France et des conseils départementaux, bien sûr. Voilà. Alors, c'est fort de cette expérience que Veritas vous propose aujourd'hui d'échanger sur ce sujet de l'hydre. C'est Daniel de Prozzo qui vous fera le rappel de la mythologie de l'hydre, vous savez, ce serpent dont on coupe la tête une fois, puis alors il y a deux têtes qui poussent immédiatement. Mais je lui laisse la primeur de cette explication. Sur le sujet de l'hydre qui menace les organisations IT et tout ce qu'il convient de mettre en place justement pour ne pas être la victime de cette hydre menaçante. Ce débat, et c'est vraiment. Alors, on ne devrait même pas parler de débat, j'espère que ça sera plutôt une conversation entre nous. Pour profiter également de l'expérience de notre invité, Maurice Martinet. Bonjour, monsieur Martinet. Je vous vois. Bonjour. Vous êtes chef du service environnement serveur de la ville de Marseille, très grande collectivité. Et puis, bien sûr, alors je pense que. À l'échelle d'une collectivité comme celle-là, vous avez une expérience suffisamment large pour évoquer tous les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Et puis, on va profiter de l'expertise de l'équipe secteur public de Veritas Technologies. Je citais à l'instant Daniel Prezzo, qui est directeur des technologies pour la région Europe et Middle East. Et puis, Amaury Coufignal, qui est ingénieur avant-vente, qui, lui, vous parlera de quelques belles pratiques. Allez, j'allais dire best practice, de belles pratiques. Voilà. Et puis, alors, surtout, en complice de l'animation de cette émission, Fanny Burry, qui est la responsable du secteur public de Veritas Technologies. Et le job de Fanny ce matin, c'est de tenir le chat et de répondre aux questions que vous allez poser. Et alors, surtout, donnez-lui du travail. Hein? Alors, grâce à eux tous, nous allons donc échanger, et grâce à vous surtout, sur tous ces sujets. Et puis, je vous en parlais il y a quelques instants, il y a ce sondage. Si je vais sur l'onglet sondage, est-ce que je vois les questions? Oui. elles sont là. Alors, s'il vous plaît, répondez à ce sondage. Répondez tout de suite, parce que dans 15 minutes à peu près, on ferme le sondage, parce qu'Amaury aura besoin des résultats du sondage pour vous présenter les belles pratiques dont on parlait à l'instant. Donc, vous avez 10 minutes allez, pour voter et nous donner en fait une photographie de votre ressenti par rapport aux quelques questions qui vous sont posées. Il y en a 10 exactement. Vous verrez, pour vous, très simple. Mais pour nous et pour nous tous, très intéressant. Alors, première intervention de cette matinée, je vais passer la parole à Daniel Desprezzo. Daniel, vous avez confié à Wakefield Research une étude hein, sur la situation de la résilience des organisations en France hein, face au phénomène des ransomware. Quelle est la situation, que dit cette étude et quelle est la situation du marché français, de la France, par rapport à cette menace-là ? Daniel.
Donc, bonjour à tous. Hein. Alors, effectivement, je vais commencer par revenir sur la métaphore de l'hydre. Pourquoi ce titre qui semble bien complexe ? Alors, vous savez, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais dans la mythologie grecque, l'hydre était un serpent de mer, un serpent marin. Qu'Héraclès, fils de Zeus, a dû combattre lors de ses 12 travaux. Et la particularité de ce serpent, c'est qu'à chaque fois qu'on lui coupait une tête, deux nouvelles têtes repoussaient. Et donc, ce qu'on voit bien dans cette métaphore, c'est qu'à chaque fois que l'IT, que donc les services informatiques ont eu l'idée, la bonne idée de vouloir simplifier la vie des utilisateurs finaux ou des professionnels qui la gèrent, à chaque fois, c'est rajouté au final une nouvelle couche de complexité. Et l'un des plus récents exemples, un des plus simples exemples, c'est l'adoption des technologies cloud, dont la promesse est évidemment de tout simplifier, d'amener de la flexibilité. Mais en parallèle de ces apports, indéniables, hein, parce que ces apports, on les a eus, cette simplification d'un côté a amené une nouvelle source de complexité. Tout d'abord, au niveau de la visibilité, la cartographie, de comment maintenir du niveau de service avec du cloud. Et là, pour le coup, je parle vraiment de cloud au sens large, que ce soit public ou que ce soit cloud privé. Le contrôle des coûts, une promesse qui était au début, une des premières promesses, c'était vraiment le contrôle des coûts, c'était dire, vous savez, le payer au fur et à mesure de la croissance. Et puis, on s'est rendu compte que le revers de la médaille, c'était justement, puisque les robinets étaient ouverts, on pouvait déployer nombre d'applications et stocker des terabytes et des terabytes de données. Et puis les problématiques de sécurité. Donc finalement, l'hydre, c'est vraiment cet exemple-là, c'est de se dire on a amené quelque chose de nouveau qui a apporté de la souplesse, de la simplification, de la flexibilité. Et puis de l'autre côté, de nouveaux écueils sont venus un peu ternir le tableau. Et donc aujourd'hui, effectivement, nous avons cette étude hein, dont je voulais vous parler pour faire un peu un bilan de l'état actuel. Du marché, quand je dis du marché, donc de l'implémentation des technologies cloud au sein des organisations et des entreprises, et de voir un peu comment le monde perçoit aujourd'hui les progrès qui ont été effectués.
Alors, quelle est la situation en France ? Et est-ce qu'on n'a pas, de ce point de vue-là, une belle slide à partager ?
Alors oui, on a une belle slide. Alors tout d'abord, effectivement, comme j'ai introduit le cloud comme étant l'hydre, déjà faire un bilan sur l'adoption du cloud, et en particulier, là, on va parler du cloud public. Alors, cette étude, elle a été menée sur 2690 décideurs informatiques, la moitié environ en Europe et un bon pourcentage en France. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter que les résultats français, parce que je pense que c'est ceux qui vous intéressent le plus. Donc, ce n'est pas une grande surprise de voir que le cloud, et le cloud public en particulier, aujourd'hui, est devenu un standard en France comme partout ailleurs. L'époque, je dirais, où le cloud était considéré un peu comme ce qu'on appelle le shadow IT, donc une espèce d'informatique honteuse faite en cachette, elle est révolue cette époque, à tel point d'ailleurs que ces technologies cloud publiques ont été intégrées dans le rôle et dans les responsabilités des DSI. Les DSI, aujourd'hui, administrent le cloud public exactement comme elles administrent les autres solutions informatiques, donc le stockage, le traitement des données. Et je dirais, même si on va au dernier échelon du cloud, qui me semble être ce qu'on appelle le SaaS, donc les applications cloud, où vraiment on est maître de plus rien, qui échappait encore il y a peu de temps complètement au contrôle des DSI, bah, aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de petite marche arrière. Et je vais prendre l'exemple typique, parce que c'est le plus connu, de Office 365. Donc, beaucoup d'organisations ont délégué leur messagerie à Microsoft en se disant, bah, voilà, c'est bon, maintenant, je peux me débarrasser de tout. Et en fait, ce que l'on voit, la tendance, c'est que, et on est très sollicité là-dessus, c'est pour ça que je vous en parle sans crainte, c'est de se dire, bah, finalement, on a délégué à Microsoft toute la messagerie, mais est-ce que les bonnes pratiques sont bien respectées et est-ce que je ne dois pas, moi, en tant que propriétaire des données, continuer à superviser ces données. Et puis, l'autre côté, voilà, le sondage, c'est qu'on voit que finalement, les extrêmes sont rares. Quand je dis les extrêmes sont rares, donc aujourd'hui, on trouve très, très peu d'organisations qui ont gardé tout sur site et très, très peu, au contraire, qui ont tout mis dans le cloud public. Alors moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi, puisque 90% des organisations aujourd'hui utilisent du cloud public, bah pourquoi pas aller jusqu'au bout de la démarche? Et oui, qu'est-ce qui nous freine? Pourquoi on ne va pas plus loin, en fait? Et moi, je vois deux raisons, personnellement, c'est mon interprétation personnelle. Je pense qu'il y en a une un peu rationnelle et une plutôt émotionnelle. Alors la rationnelle, c'est que, comme on vient de le dire, hein, c'est que si le cloud public tient beaucoup de promesses, elle n'a pas dispensé finalement... Elle n'a pas permis de, j'allais dire, de mots de débarrasser, et c'est un peu provocateur, mais en tout cas, de faire abstraction d'une DSI. On a toujours besoin d'une DSI, et c'est une bonne nouvelle. Donc, de toute façon, à partir du moment où il faut garder une DSI, c'est un fait, bah, pourquoi aller tout mettre dans le cloud? Il faut garder un minimum d'infrastructures de façon à pouvoir faire des manipulations et continuer dans la notion de souplesse et de réactivité en cas de problématique. Et puis, le côté plus émotionnel, c'est de se dire, bah, le cloud, ça continue à faire un peu peur. C'est un peu une inconnue. Et on veut se garder la possibilité de faire marche arrière à tout moment.
Daniel, sur le côté un peu émotionnel, hein, mais pas que, quel est le ressenti des DSI ou de leurs équipes par rapport aux mesures de sécurité qui sont prises dans leur organisation? Est-ce qu'elles pensent qu'elles sont suffisamment adaptées, à la hauteur de la situation? J'allais dire à la hauteur des dangers.
Alors, c'est intéressant parce que là aussi, sans plus de preuves que ça, on se rend compte que dans l'esprit, et là, c'est vraiment le côté émotionnel, dans l'esprit des gens, on a été trop vite. C'est-à-dire qu'on a été trop vite, ça veut dire qu'on a basculé beaucoup de choses dans le cloud. Et finalement, est-ce qu'on a bien mis les bons investissements? Peut-être qu'il faudrait... Je vais essayer de bouger la slide. Voilà. Je ne trouve pas la petite... Ça y est, j'ai réussi, bravo. Donc, peut-être qu'on n'a pas mis l'investissement qu'il fallait au niveau de la sécurité. En tout cas, tout le monde n'est pas convaincu qu'on a convaincu de ça. Et donc, 69%, donc un peu plus de deux tiers des gens intéressés ont la sensation que les mesures de sécurité adoptées aujourd'hui par les entreprises ne sont pas adaptées à la complexité de tout ce qui a été mis en place récemment. Et ce qui est paradoxal, ce qui est marrant d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, 55% des personnes interrogées savent qu'il y a eu de nouveaux investissements dans la sécurité, surtout depuis le début de la pandémie, donc de gros investissements. Donc d'un côté, il y a eu des investissements, de l'autre côté, on pense que ce n'est pas encore assez. Et là, alors, pour le coup...
Et peut-être que la menace augmente aussi, hein, avec le temps.
Voilà, complètement, et les exemples ne manquent pas. Je crois qu'on a un exemple très récent qui date d'hier, voilà, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais... Moi, j'aurais presque envie de vous demander, et vous en pensez quoi, vous qui êtes là aujourd'hui sur ce webinaire, est-ce que vous vous sentez en toute confiance? Est-ce que vous vous dites, rien ne peut arriver à mon organisation? Ou au contraire, est-ce que tous les jours, vous vous dites, j'ai intérêt à faire mes quelques sauvegardes parce que je ne sais pas trop ce qui peut se passer demain?
Alors, il y a ce lieu commun aujourd'hui qui est de dire, finalement, je ne sais pas, la question de savoir si je serai attaqué, eh bien, la réponse, c'est oui. La seule question qui se pose, c'est quand.
J'utilise souvent, effectivement, cette phrase. Je ne voulais pas l'utiliser ce matin, mais oui, je pense que c'est vraiment... on a beau, encore une fois, même sur les investissements de sécurité, il faut dire que les mal intentionnés ont souvent... C'est un peu comme les gendarmes et les voleurs, ont souvent un coup d'avance, en fait. Hein. Pas toujours, parce que je pense qu'on travaille bien, mais... voilà, ils arrivent toujours. Il n'y a pas de forteresse qui est imprenable, en fait. Donc, de toute façon, il faut être prêt, à réagir.
Alors, on reste dans l'émotion. Vous avez 69% des personnes qui pensent que leur organisation n'est pas au niveau de ce qu'il faudrait faire pour bien se protéger. Et puis, après, il y a cette question du ransomware. Est-ce qu'on sait si les gens payent? Parce qu'en fait, c'est un peu comme les rançons pour les États. Les États déclarent toujours qu'ils ne payent pas. Mais là, est-ce que vous avez des informations? Est-ce que les gens payent et ne le disent pas, quoi?
Alors, j'ai perdu les slides, ils sont là, ça y est. OK. Avant de savoir si les gens payent ou pas, les gens sont-ils déjà attaqués? Et c'est peut-être ça la première question à se poser. Et en fait, aujourd'hui, le sondage montre que 29% des organisations en France ont été attaquées au cours des deux dernières années, au moins une fois, sinon deux fois. Donc, clairement, ça fait pratiquement un tiers, ce qui veut dire que c'est énorme. Alors, est-ce que les gens payent? Oui, les gens payent. Les gens payent, pas toujours, pas totalement, mais les gens ont tendance à payer. Et on voit que là-dessus, en France, visiblement, on est un peu plus enclin à payer que dans le reste de l'Europe, puisque le reste de l'Europe est à un peu moins de 50%. Alors, payer, effectivement, comme vous le disiez, hein, c'est pas plaisir, d'abord parce que ça coûte de l'argent, c'est vexant. C'est quelque part un peu immoral, sinon illégal, à la limite, hein, on peut dire. Finalement, est-ce que je ne suis pas en train d'alimenter je ne suis pas en train de faire de la recel, hein, quelque part du recel, puisque je paye, donc j'alimente un marché pirate. Et puis, l'autre point, lorsqu'on paye, c'est est-ce qu'on est vraiment sûr de retrouver ces données?
Oui, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on a des informations sur l'avantage qu'il y aurait à payer plutôt qu'à reconstruire, si tant est que ça soit possible, un système. Vous avez des informations là-dessus?
J'ai des informations sur ce que ça coûte de le reconstruire, en tout cas. Et donc, effectivement, les plus courageux qui n'ont pas choisi de payer la rançon, ils ont mis du temps, la plupart du temps, à reconstruire le système. Et je crois que les statistiques, alors je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est un tiers a mis moins d'une semaine, un tiers a mis moins de deux semaines, et environ un tiers a mis plus de temps, voire plus d'un mois, voire environ 10% qui n'ont pas du tout pu restaurer une partie de leur système. Donc oui, c'est un acte courageux, c'est un acte militant aussi de ne pas payer la rançon, mais ça met vraiment à l'épreuve toute la ligne de défense qu'on avait construite, en fait, parce que là, on est vraiment dans le test réel et on peut difficilement faire marche arrière. C'est-à-dire que dès le début, il va falloir faire ce choix, et je pense que M. Martinet nous en parlera après, c'est de se dire quelle stratégie j'adopte. Et il faut vraiment faire une introspection rapide pour se dire est-ce que j'ai les moyens de ne pas payer la rançon? Est-ce que ce que j'ai mis en place avant a bien été est suffisamment puissant, suffisamment fort et suffisamment testé pour pouvoir dire je vais aller au bout de cette démarche, parce que le pire, finalement, ce serait d'essayer de restaurer, de remettre en service pendant un mois ou deux mois et à la fin de payer la rançon.
Mmh. Oui. Alors, on a un dernier chiffre dans cette étude. Hein, c'est 60% c'est ce dont on vient de parler, des personnes. Et puis, alors voilà, 15% des personnes interrogées en France affirment que l'organisation suit les pratiques d'excellence recommandées. J'allais dire, mais je vous laisse le dire, hein, Daniel, c'est pas énorme, mais moi je me souviens de chiffres il y a quelques années où c'était beaucoup plus faible, et je trouve que la tendance n'est pas si mauvaise. Qu'en pensez-vous?
Alors, c'est bien d'être optimiste. Allez. Je vous remercie d'apporter
un peu le matin, on a besoin de ça. Allez.
Un peu de lumière à cet échange. Oui, mais d'un autre côté, c'est quand même un chiffre qui tue. Moi, j'ai tendance à dire, si je peux me permettre, parce que ce chiffre, il vient corréler tous les autres que je vous ai cités. Ça veut dire qu'on a une conscience globale qu'il y a des risques importants. On a une conscience qu'on n'a pas mis les mesures. Et puis, lorsqu'on parle juste des bonnes pratiques de base, et là, dans ce chiffre, on va être de détailler un peu plus tard, mais c'est vraiment la pratique qu'on appelle du 3-2-1. Et Amaury, je pense, vous en reparlera un peu plus tard. Donc, vraiment une pratique qui n'est pas si onéreuse que ça, qui est assez simple. On se rend compte que seulement 15% des organisations l'ont mise en place. Il y a une vraie décorrélation entre le risque encouru et des choses simples. Alors, on le disait, hein, vous l'aviez dit, le risque zéro n'existe pas. L'histoire a montré que les forteresses les plus imprenables finissent par être prises. Donc, il faut être préparé. Il n'y a pas de secret. Et, et, Et quand même, il y a un message derrière, moi je voudrais passer, juste pour conclure, c'est qu'il faut évidemment répondre à une équation économique. C'est-à-dire qu'il n'est pas, rien ne sert d'aller bâtir des murs de 50 mètres de haut si derrière vous avez deux choux-fleurs à protéger. Je n'ai rien contre le choux-fleur. Hein. Voilà. Mais être préparé, c'est une question de bon sens. Il faut mettre en place des moyens adaptés à ce que l'on veut protéger. Vouloir tout protéger, au final, c'est presque contre-productif. Les bonnes pratiques, il faut les mettre aux bons endroits, selon la valeur de la donnée, selon la criticité de l'application et du service qu'on en est en train de fournir à nos utilisateurs finaux. Donc, pour finir sur la métaphore de l'hydre, couper une tête de l'hydre ne va sûrement pas suffire. Il faut essayer d'aller voir un peu plus large et de voir, d'avoir une perspective un peu plus haute.
Bon, ben écoutez, à la fois merci pour ces informations et puis ces mots d'encouragement. Moi, je pense que ça nous donne une bonne base pour continuer à échanger ce matin. Alors, que dit le chat, Fanny ?
J'allais intervenir, justement. J'attendais Pierre-Marie pour prendre la parole. Ça vient justement assez bien illustrer ce que vient de dire Daniel et M. Garcia, qui, suivant les investissements pour avoir une informatique si sécurisée que celle des clouds, sont-elles encore à portée des collectivités locales ? Rien que l'accès au data center politique est difficile à atteindre. Et c'est vrai, il y a aussi la réalité budgétaire. D'ailleurs, j'ai pu voir quelques études qui indiquaient que seulement 1% du budget informatique était dédié à la sécurité parce que il y a le quotidien, il y a des priorités. On est plutôt dans le réactif que dans le proactif. C'est aujourd'hui, on voit que la situation s'aggrave et que la sécurité devient quand même une priorité. Maintenant, il y a une réalité budgétaire, c'est certain.
C'est vrai que ça fait tout à fait écho à ma conclusion, hein, c'est que le coût de la sécurité est devenu est très élevé, et atteindre le niveau de sécurité des vendeurs de cloud, voilà, des GAFA. Et même si on sait qu'ils ont des défaillances eux-mêmes, hein, quelquefois, semble un objectif un peu inatteignable. C'est pour ça que l'idée, c'est vraiment d'essayer de préserver l'équation économique, se dire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est vraiment précieux chez moi, en fait, de quoi j'ai vraiment besoin. Si je prends l'exemple récent malheureux de l'hôpital de Dax, qu'est-ce qui était le plus important pour eux? C'est finalement tout leur système d'intervention sur les patients, hein, qui devaient rentrer en opération aujourd'hui. Donc, c'est vraiment essayer d'aller protéger la partie vitale, quitte à faire un niveau de protection différent pour des choses que l'on peut reprendre calmement plus tard. Il y aura forcément des services qui seront interrompus, qui seront décalés dans le temps, mais vraiment se dire, mettons des niveaux de priorité, mais pour ça, il faut déjà avoir une bonne compréhension de son offre de service, hein, du service que l'on offre à nos citoyens. Et ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce qu'évidemment, tout le monde a envie d'être protégé, mais il y a vraiment des choix cornéliens qui vont devoir s'effectuer pour maintenir cette équation économique possible.
Bon, écoutez, alors d'abord, merci à Frédéric Garcia pour sa question, hein, puisqu'il parle au nom d'une collectivité, hein, une collectivité d'Île-de-France. Et puis, à tous, sachez, et vous le voyez dans l'onglet chat, que l'étude dont vient de parler Daniel de Prezzo, eh bien, il y a un lien, vous pouvez la télécharger. Elle est très intéressante, cette étude. Je crois qu'elle, d'abord, elle dresse bien l'état des lieux et elle nous fait comprendre à quel point la situation est tout de même, sous certains aspects, très préoccupante. Alors, on a fermé le sondage, normalement. Hein. Les résultats sont arrêtés. Est-ce qu'Amaury a eu ses résultats? Est-ce qu'il a pu commencer à faire un peu d'analyse?
J'ai regardé. On a des résultats qui sont extrêmement intéressants et qui vont dans le sens, de ce qu'on dit depuis ce matin.
Bon, ben alors écoutez, Amaury, moi, je vous passe tout de suite la parole. On va ensemble, avant de passer la parole à notre invité du jour, à Maurice Martinet, on va voir quelques bonnes pratiques. Et puis, à chaque fois, vous vous servez des réponses au sondage, hein, en appui, pour que on illustre bien les choses. Premier exemple que vous vouliez partager avec nous, Amaury.
Alors, vous avez dû le remarquer, hein, on a effectivement, finalement, un sondage qui est en trois axes. sur la protection, la détection et le retour de l'information. Et une des premières choses qu'on peut remarquer, c'est que aujourd'hui, un répondant sur deux, alors j'ai dû répondre, hein, je crois, pour voir les réponses, mais un répondant sur deux, aujourd'hui, ne connaît pas l'ensemble de ces données. Et d'ailleurs, un répondant sur deux n'a pas d'outils d'analyse de ces données. Et pourtant, plus d'un répondant sur deux disent protéger l'ensemble de leurs données. Alors, avec un ou plusieurs outils, d'ailleurs, la majorité protège aujourd'hui avec plus d'un outil ces données. Ce qui est intéressant, et ça rebondit sur ce que tu disais, Daniel, tout à l'heure, c'est que la majorité des utilisateurs n'ont pas finalement défini de plan de reprise et donc finalement n'ont pas catégorisé leurs données. 70% des utilisateurs n'ont pas, des répondants, n'ont pas défini de temps de reprise ou de perte maximum de temps de données. Et pourtant, dans le même temps, ils protègent l'ensemble de leurs données. Et c'est peut-être là finalement, et qu'on pourrait rebondir sur la question de M. Garcia, c'est si on arrive à prioriser ou à considérer qu'on a des données d'une valeur plus importante que d'autres, et bien dans ces cas-là, peut-être qu'on va pouvoir orienter différemment les investissements et prioriser la sécurisation et donc les investissements sur une partie des données. Mais pour cela, il faut effectivement connaître l'ensemble de ces données. Ça paraît évidemment indispensable. Alors, je rebondirai, hein, on en reparlera effectivement au cours de cette présentation. Aujourd'hui, l'actualité est prégnante, on s'aperçoit effectivement que dans ce monde de digitalisation, eh bien, on a des données qui sont finalement en danger. On n'est pas là pour faire peur, mais finalement, on s'aperçoit que à partir du moment où on est connecté quelque part, nos données sont accessibles. Et ça sera être nos données personnelles, mais ça va être nos données, évidemment, professionnelles et les données de notre structure et nos infrastructures. Il y a énormément d'opportunités, effectivement, de mettre en danger nos données. Fanny, je crois que tu voulais rebondir sur ce sujet-là, d'ailleurs.
Oui, j'ai eu un petit problème pour enlever le micro, enfin le muet, désolé. Oui, ce que je voulais dire finalement à Maurice, c'est qu'on pourrait dire que les cybercriminels sont des grands opportunistes et qui saisissent les bons moments pour attaquer. Daniel en a un petit peu parlé tout à l'heure. On le constate à travers la recrudescence des attaques envers les collectivités locales, les universités, les hôpitaux, qui finalement jusque-là étaient plutôt épargnés et sont devenus des cibles privilégiées, et encore plus lorsque les événements s'y prêtent, tels que les élections pour les mairies, des examens pour les universités, ou encore la pandémie pour les hôpitaux. Ce sont des cibles de choix. Lorsqu'une attaque est opérée sur ce type d'organisation, l'impact est très fort en visibilité auprès du grand public. Lorsqu'un service public est arrêté ou des soins au sein d'un centre hospitalier, les conséquences peuvent être graves. On l'a vu cette semaine, Daniel en a fait référence tout à l'heure. Encore, ils en parlent encore ce matin, du CH d'Ax qui a été obligé de déprogrammer effectivement des opérations, mais qui n'avait même plus accès au numéro de téléphone des patients pour déprogrammer ces opérations et qui considèrent un retour à la normale dans une quinzaine de jours environ. Donc l'impact est quand même très, très, très important, d'où l'absolue nécessité de prendre au sérieux ces menaces sans vouloir faire peur et s'y préparer. Et s'y préparer au mieux et encore plus lorsqu'on vit des événements stratégiques ou critiques en cours ou à venir. J'ai vu qu'il y avait, donc on a eu l'intervention de M. Garcia tout à l'heure, mais j'ai vu qu'il y avait quelques participants qui représentaient des collectivités locales, des villes et puis des centres hospitaliers. Si voilà, vous avez souhaité intervenir, partager votre réflexion par rapport à ça, ce que vous vivez, vous n'hésitez pas à travers le chat pourra évidemment alimenter cet échange. Je voulais apporter cette intervention.
Alors, on parle du ransomware depuis tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier que le ransomware n'est pas la seule menace qu'on peut trouver. Alors là, ici, on parle de menaces liées au télétravail. On l'a vu, on a eu un exemple fin de semaine dernière. Bien sûr, on a des cybercriminels qui vont être là pour pirater les données et réclamer une rançon, un échange, travailler en Bitcoin. Mais finalement, les données aussi peuvent être volées, tout simplement, sans qu'on s'en aperçoive. Et on parle aujourd'hui du Darknet, on s'aperçoit que la problématique n'est pas forcément que extérieure. On a aussi, finalement, un accès par, certaines fois, des administrateurs indélicats ou des utilisateurs indélicats qui vont essayer de nous voler de la donnée ou provoquer. Parce que finalement, on le dit que trop peu, l'important, c'est pas l'IT, l'important, c'est pas l'infrastructure, qu'elle soit on-premise ou cloud. L'important, c'est la donnée. On devrait même dire que l'important, c'est l'information. Et là où, il y a encore quelques années, la donnée était dans un serveur ou dans une baie de stockage, aujourd'hui, la donnée est de sources multiples. Elle est d'énormément de types différents, que ce soit du fichier à plat, que ce soit de la donnée applicative, de la vidéo, de l'image et du son. Et finalement, quand on veut protéger son capital information, son capital de données, eh ben, on se retrouve effectivement face à une complexité qui dépend de la complexité des outils. Et quand Daniel citait tout à l'heure l'étude sur l'hybridation de l'IT aujourd'hui, eh bien, ça rend effectivement cette complexité encore plus importante, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a des régulations. Alors, en Europe, on va parler, dans notre cas, de la protection, notamment principalement autour des données personnelles, mais on a énormément d'autres régulations en fonction des pays et en fonction même des verticaux. Une assurance, par exemple, va avoir des régulations complémentaires de type métier par rapport ses enjeux et son propre niveau d'information. Donc finalement, la sécurisation des données, et quand on voit le sondage et qu'on s'aperçoit finalement que parmi les répondants, certains ne connaissent pas l'ensemble de ces données, eh bien, on se dit qu'effectivement, on ne peut pas correctement protéger ce que l'on connaît mal. Et cet impact-là, finalement, on s'aperçoit qu'on explose en termes de nombre de données, on en a de plus en plus, et finalement, on se rend soi-même inefficace par rapport à ça, dans la sécurisation, la protection, et donc potentiellement le retour, on va avoir des incompatibilités produits qui font peut-être d'ailleurs que des répondants nous disent qu'ils ont l'obligation d'avoir plusieurs produits pour sécuriser l'information. La sécurité, c'est également les points d'accès et c'est également une des sources de risques, parce que avec des multiples points d'accès, on le voit aujourd'hui dans le monde du télétravail, on a un poste, on a des téléphones, des objets connectés, et bien finalement, l'ensemble de ces problématiques-là font qu'on augmente le risque de sécurité. Et la sécurisation de l'information, c'est quelque chose de critique, par exemple contre le vol, par exemple contre le ransomware. Mais dans le cas de l'hôpital, qu'est-ce qu'a entraîné le ransomware ? Le ransomware-là, il entraîne un arrêt. Et pour un hôpital, un arrêt et un arrêt prolongé, c'est extrêmement problématique, encore pire dans notre session. Donc finalement, que ce soit au travers de cybermenaces ou au travers d'une protection qu'on ne sait pas assez imposer, eh bien, finalement, on va arrêter ou être obligé d'arrêter nos systèmes métiers, et donc finalement mettre les usagers à l'arrêt. Et en fait, pourquoi ? On le parlait avec le cloud, on parlait avec les nouveaux usages, la transformation numérique, on est depuis 5 à 10 ans complètement dedans, mais en revanche, on n'a pas fait un suivi de la stratégie de résilience dans le même temps. Et cet écart qui augmente au cours du temps, à mesure que le rythme de la transformation numérique s'augmente, eh ben, il va nous créer du risque. C'est ce que nous, on évoque souvent comme le resiliency gap, donc l'écart de résilience entre les usages et la protection. Et finalement, ça va nous emmener vers de plus en plus de risques. Et ces risques, c'est soit les cybermenaces, comme on les a vues et comme on les a partagées, soit des temps d'arrêt. Et on a eu des structures, si elles ont un temps d'arrêt trop important, alors là, on parlait d'un hôpital, mais on a travaillé également, il y a plusieurs mois, plusieurs années, sur un très gros industriel je pourrais le reciter un petit peu plus loin, je ne donnerai jamais son nom, mais un industriel qui a vu ses usines arrêter. Et là, on peut parler effectivement de quelqu'un qui va s'arrêter et potentiellement tomber en faillite par les temps d'arrêt de ses systèmes et effectivement, dans son cas, par une cybermenace qui avait complètement envahi ses systèmes. Et puis la dernière, c'est effectivement la perte de données. La perte de données, par exemple, on l'a entendu avec beaucoup d'opérateurs dont on a pris les données clients. Alors tous, après, prétendent, oui, mais attention, il n'y avait pas de données bancaires, hein, il n'y avait pas le numéro de la carte, hein, il n'y avait que le nom et l'adresse mail. Oui, mais le nom et l'adresse mail, il y a un opérateur de vente à distance qui a déclaré que plus de 20 millions de noms et d'adresses mail avaient potentiellement été exfiltrés de sa structure et potentiellement vendus sur le darknet. On parlait d'hameçonnage tout à l'heure, mais que peut faire un cybercriminel avec un nom et une adresse mail? Eh bien, on va pouvoir effectivement enrichir la cybermenace du fait de ces risques de perte de données. Donc voilà, toujours ne pas oublier que la transformation numérique va forcément, si on ne suit pas dans le même rythme une stratégie de résilience cohérente, va encourager de plus en plus de risques et que, effectivement, pour limiter ces risques, il va falloir bien analyser ces données, on le verra un petit peu plus tard, pouvoir les protéger dans le bon temps, avec le bon rythme, de façon, effectivement, à pouvoir soit redémarrer le plus vite possible ou soit s'assurer que, finalement, par cette stratégie de résilience, on ne perd aucune donnée.
Merci Amaury. On a Pierre-Marie, je me permets, on a une question de Monsieur Covey. On vous entend pas, Pierre-Marie. Ouais. Donc la question est, pourriez-vous donner un exemple sur cette corrélation, s'il vous plaît? Et quand vous évoquez l'exécution de la transformation numérique, quelles opérations sont concernées? Je laisserai compléter Daniel ou Amaury, mais ce que je voudrais déjà dire, c'est que en fait, plus on opère de transformation numérique telle que la numérisation des services publics, l'arrêt, le développement de nouveaux services, plus évidemment on s'expose à travers des outils numériques supplémentaires qui peuvent donner accès à des hackers, à travers la tentation, plus on devient visible, plus on peut faire l'objet donc d'attaques, parce que ce que cherche un hacker, c'est avant tout d'être visible dans son attaque et d'impacter fortement. Donc c'est cette corrélation, enfin c'est entre la transformation numérique qui est opérée à travers des nouveaux services publics numériques et le manque d'investissement dans la sécurité et la protection des données. Et donc, plus la courbe de la transformation numérique augmente, et si les investissements ne suivent pas, plus les risques sont importants et les tentations grandes pour les hackers d'attaquer. Daniel ou Amaury, si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette question.
Oui, non, ce que je peux dire, c'est juste, effectivement, la transformation numérique a touché toutes les opérations et l'exemple, c'est qu'il n'y a rien qui n'est plus numérique aujourd'hui, en fait. On a tendance un peu à l'oublier, et, voilà, jusqu'à la téléphonie, tout est numérique, en fait. Et ce n'est pas juste… moi, ce qui m'a le plus frappé dans toutes les personnes, en fait, toutes les entreprises, organisations qui ont été touchées, c'est qu'on pense évidemment numérique, on pense, voilà, il n'y a plus les bases de données, il n'y a plus l'application. Mais en réalité, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus le moyen de téléphoner, même plus le moyen de connaître leur nom de client, parce qu'il n'y a plus rien qui est disponible. Ce qui veut dire que reprendre d'un désastre majeur comme un ransomware, ça veut dire vraiment reconstruire tout, quoi. C'est juste les murs du data center qu'on ne reconstruit pas. Mais en fait, c'est pour ça que ça peut être très long. Ce n'est pas juste restaurer des données, c'est reprendre à zéro en recommençant vraiment par les premières briques. Donc, ce gap de résilience, il devient de plus en plus grand, puisque avant, on disait, je remets en service uniquement une partie qui correspond vraiment à mes applications, à mes données. Mais en fait, là, on est obligé de remettre en service tout, de la téléphonie, à l'ouverture des portes. L'ouverture des portes, souvent, sont liées à des badges. Donc, on peut des fois même pas rentrer dans les locaux. Donc, le gap devient complètement énorme, en fait.
Est-ce que vous avez vu cette question de Frédéric Garcia qui revient là sur le chat et qui a un moment… Alors, ça, bravo, Monsieur Garcia, parce que j'entends peu de gens dans le secteur public reconnaître quelque chose qui peut paraître quand même un peu évident, ce moment de lucidité, c'est-à-dire que on-prem, est-ce que je ne suis pas plus faillible que sur le cloud, c'est-à-dire que enfin quelqu'un qui peut reconnaître que les infrastructures dans certains endroits du secteur public sont un peu en faiblesse, si on les compare aux qualités du cloud qui, lui, finalement, pourrait attaquer, on va dire, de façon industrielle et systématique, s'est doté des moyens de protection suffisants. C'est une belle prise de conscience, non ? Qu'en pense Fanny ?
Ah oui, oui, c'est effectivement, c'est très, très rare. quelle lucidité énorme. En revanche, il y a une deuxième partie dans sa question qui est, si on est en cloud, la fiabilité est bien meilleure, mais a-t-on la possibilité d'avoir un PRA pour des services cloud SaaS ? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend des services proposés par le fournisseur de cloud. Ceci dit, il peut y avoir ensuite d'autres solutions aussi pour protéger ces données qui sont dans le cloud, au-delà du PRA, puisque je vois que certains logiciels publics un petit peu old school, d'éditeurs old school, ne proposent pas forcément. C'est ne serait-ce que de protéger ces données dans le cloud à travers des solutions de sauvegarde en envoyant ces données sur d'autres supports, soit en on-prem, soit dans d'autres clouds, etc. Voilà, il y a d'autres solutions, mais je ne vais pas. Amaury va en faire part dans la deuxième partie. Mais oui, il y a des solutions pour protéger ces données. Il y a une autre question qui est de d'Aliénor Couvé. Est-ce que l'archivage papier de certaines informations pourrait être complémentaire des outils de sécurisation? Et si, alors,
je vais l'apprendre, tu veux que j'apprenne?
Ouais.
Elle est intéressante, question.
Parce que, tout à fait.
On se rend compte que là, on est vraiment au retour à la base. Donc, oui, l'archivage, aujourd'hui, c'est l'archivage papier, c'est le format le plus portable. Hein. C'est vrai qu'il y a des grandes initiatives au niveau de la portabilité des formats pour le futur. Voilà, différentes initiatives. Alors, l'archivage papier, oui, reste quelque chose de complémentaire. Après, c'est pas l'archivage papier qui va remettre en service la DSI ou le système informatique, mais je pense que M. Martinet va nous en parler à un moment donné dans ses bonnes pratiques. Hein, c'est que quelque part, d'avoir quelques informations sur un archivage papier, ça peut nous aider à redémarrer. Donc, la question est loin d'être mauvaise.
Oui. Et d'autant plus qu'ils en parlaient ce matin quand ils faisaient référence au CH de Dax et ils étaient interviewés, ils étaient revenus au stylo et à rechercher toutes les informations qu'ils pouvaient trouver dans leurs papiers pour pouvoir faire face.
Et juste peut-être justement avant de poursuivre, il ne faudra jamais oublier malgré tout que, et on parlait de la transformation numérique, des nouveaux téléservices, il ne faudra jamais oublier que souvent le danger, je l'évoque, il est entre l'écran et la chaise. Il faut absolument aussi former les utilisateurs à ces nouveaux usages-là. Prenons l'exemple de Office 365, où effectivement on va avoir la possibilité d'accéder à un OneDrive qui va nous permettre de travailler très efficacement avec des utilisateurs, entre utilisateurs, de se partager des documents, de travailler sur des documents communs. Il ne faut jamais oublier que les utilisateurs doivent savoir que certaines données n'ont rien à faire sur cette partie-là. On parlait de fuite et de perte de données, de perte d'informations. Il faut faire vraiment également très attention à ça. Les utilisateurs doivent être formés aux nouveaux usages. Et comme à une époque, on interdisait aux utilisateurs d'insérer des clés USB sur leur desktop ou leur laptop parce qu'ils pouvaient contenir des virus, eh bien aujourd'hui, de la même façon, et nous, on peut le dire, hein, Daniel, Fanny et moi, aujourd'hui, on a des OneDrive, mais si on devait aujourd'hui y déposer des codes sources de Veritas, il y aurait des alertes de sécurité qui passeraient partout. Ça serait une mauvaise pratique de notre part parce qu'on aurait été mal formé, mais notre RSSI, elle a pris des choix et elle a pris des actions pour que cette action soit immédiatement remédiée si elle devait apparaître. Donc, ne jamais oublier qu'effectivement, tous ces nouveaux usages, on va pouvoir y ajouter tout ce qu'on veut comme outillage, mais il ne faut absolument jamais oublier qu'il y a aussi l'utilisateur et qu'on doit former l'utilisateur à ces nouveaux usages. Et M. Garcia disait qu'effectivement, est-ce qu'on est capable de créer un PRA des services cloud? Bien sûr qu'on est capable de créer des PRA. Certains sont inclus dans les services fournis par les plateformes, mais on est capable également de fournir des PRA et pourquoi pas. Et d'ailleurs, je le dis souvent, la boucle est bouclée. À partir du moment où on a voulu aller dans le cloud, on a voulu travailler dans le cloud, et maintenant on veut protéger on-prem la donnée qui est dans le cloud, ça veut dire que c'est une technologie adoptée, et la boucle est bouclée, et effectivement, on doit être capable de vous aider, on sait le faire, on n'a pas.
Bon, allez, on avance là, hein, parce qu'on a quand même un invité qu'on fait attendre. Avant de lui passer la parole, avant de passer la parole à Maurice Martinet, Amaury, deuxième partie, deuxième tiers des résultats du sondage, vous vouliez nous donner quelques chiffres.
Alors oui, je l'évoquais justement tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs, donc, aujourd'hui, répondant, hein, parmi, je pense, la trentaine de réponses qu'on a eues, un sur deux ne connaît pas la totalité de la nature de ces données. Ça, c'est une grosse problématique. Si on ne connaît pas ces données correctement, on ne peut pas protéger les données correctement. Et 30% des utilisateurs seulement ont des objectifs de temps de reprise d'activité. On parlait de l'hôpital de Dax. Est-ce qu'ils avaient un plan de reprise qui était effectivement préparé, calculé et surtout mesuré? Et puis, et là, c'est encore un petit peu plus gênant, on a 40% des utilisateurs qui n'ont pas de plan de reprise d'activité. C'est-à-dire, on protège, on a mis des moyens, mais on n'a pas préparé le plan une fois qu'on va avoir à faire face à l'hydre. On n'a pas, dans 40%, pas le temps. Et puis une dernière, mais ça je rebondirai un petit peu plus tard, quand on a un plan, on le teste dans 80% des cas, une fois par an. On verra que ça peut avoir également des impacts forts.
Oui, on ne fait pas l'exercice assez souvent. Alors, voilà, ça c'est le moment que vous attendiez. Je vais passer la parole à Maurice Martinet, qui est le chef du service environnement serveur de la ville de Marseille. Monsieur Martinet va nous présenter le système d'information de la ville de Marseille.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Martinet. Vous allez aussi nous dire comment la ville de Marseille protège ses données, et elles doivent être nombreuses. Et puis surtout, vous avez, alors vraiment, c'est là, d'abord merci parce qu'il fallait accepter de le faire. Vous avez accepté de nous expliquer tout simplement comment vous étiez sorti d'une cyberattaque. Et je trouve que d'abord, c'est courageux et c'est extrêmement intéressant pour tout le monde de voir comment une aussi grande collectivité comme la vôtre a pu justement remettre en service son système. Soyez remerciés pour ce partage d'expérience. À vous la parole.
Donc bonjour, effectivement, on parle depuis le début de cette matinée de beaucoup de thématiques et je souhaitais le partager parce qu'effectivement, on est quand même une collectivité et on doit être de partager nos informations, nos manières peut-être de faire à toutes les collectivités. Donc je vais vous présenter dans un premier temps le SI de la ville de Marseille. Vous verrez qu'il aborde aussi certains thèmes. Comment la DGNC protège les données au quotidien et comment la DGNC a affronté la cyberattaque, et quelques petites conclusions faciles à mettre en œuvre, je pense. Donc, en fait, nous sommes propriétaires de nos deux data centers. Donc, nous avons effectivement tout qui est doublé, deux blocs de climatisation par centre, un onduleur, un groupe électrogène derrière, et que nous testons, on va dire, régulièrement. Le groupe électrogène démarre une fois par mois. Bon, un truc très bête, pensez à faire l'essence. Procédure de la plupart de ces emplettes, nous sommes en plus propriétaires de nos liaisons data et voix. C'est-à-dire que nos deux data centers sont reliés par des fibres noires. Et nous sommes aujourd'hui, en 2020, nous sommes passés à 2 fois 100 gigabits. Et nous allons, au courant de l'année, passer à 4 fois 100 gigabits. Ça, c'est aussi, ça nous offre des perspectives pour faire, de mettre en œuvre des architectures on-premise. Effectivement, il y a un débat là-dessus. Donc, le site de la ville de Marseille, en fait, elle est à 99% virtualisée. C'est-à-dire que oui, nos contrôles d'accès, le serveur de contrôle d'accès est virtuel. Oui, la TOIP est virtuelle. Oui, le SIRH est virtuel. Oui, tout est virtuel chez nous, quasiment. Donc, nous avons, pour faire fonctionner tout cela, plus de 30 SX. Nous avons 400 terres de données réparties sur les deux data centers en RAW. Nous avons plus de 1000 machines virtuelles. Plus de 300 applications, parce qu'une collectivité comme une telle qu'une mairie, ben, ces métiers sont nombreux et vastes. Et nous avons, je dis, 4 000 utilisateurs, ça c'est au système d'information, mais en connexion, nous avons plus de 12 000 agents. Nous avons ce qu'on appelle le portail agent qui leur permet d'accéder, par exemple, à leur fiche de paye. Donc, comment toutes ces données sont protégées? En fait, nous disposons de deux appliances Veritas posées sur chaque site de 200 Tera chacune en disque. Nous avons créé un domaine de sauvegarde par centre de données, donc c'est-à-dire qu'ils sont entre guillemets indépendants. Et nous avons aussi créé une rupture technologique, c'est-à-dire que l'un des domaines Veritas est sous un serveur Windows et l'autre il est intégré dans l'appliance. Donc c'est un choix que nous avons fait pour créer une rupture pour essayer éventuellement de minimiser les impacts, notamment une mise à jour, etc. Donc, on a mis aussi en œuvre ce qu'on appelle l'auto-image réplication de Veritas, c'est-à-dire que chaque sauvegarde qui est faite sur un site est répliquée sur l'autre site, et inversement. Donc, ça, c'est des mécanismes qui fonctionnent la nuit, on sauvegarde, après des batchs, et la journée, ça réplique dans les deux sens. Et grâce à nos fameux tuyaux haut débit, cela fonctionne assez correctement, même voire très bien. Nous protégeons plus de 2 pétas de données par mois, et nous en conservons assez longtemps. Donc, pour la cyberattaque, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on peut dire que nous avons quasiment tout perdu. Nous n'avions plus rien. Ils ont commencé à attaquer les sauvegardes, effectivement. Ils ont pu prendre la main sur un des serveurs de sauvegarde et, personnellement, je l'ai vu, ils ont commencé à effacer nos bandes. Donc, suite à cela, on a effectivement appelé un expert Veritas pour faire un état des lieux de ce qui nous restait. Donc, nous avons constaté que l'autre domaine était toujours actif. Donc, on s'est dit, c'est bon, on peut commencer à restaurer notre système d'information. La question qui arrive maintenant, c'est comment on fait? Est-ce qu'on restaure tout d'un coup? Ou est-ce qu'on va le faire autrement? Donc, l'avantage de restaurer, c'est qu'on avait, on avait eu un script qui nous permettrait de lancer une sauvegarde, une restauration de tout notre récit automatiquement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En gros, c'est 90 Tera restaurés. Le souci, lorsqu'on lance ça, c'est de savoir, en fait, on peut éventuellement restaurer le verre. Parce que, ne sachant pas trop à l'époque, c'est-à-dire qu'on était dans les 3 premiers jours de la cyberattaque, de se dire, est-ce qu'on ne va pas le restaurer lui aussi? Est-ce que le verre, il est disponible, il est là depuis un mois, un jour, 10 jours, 15 jours? On ne savait pas trop. Donc, en parallèle, on a lancé une étude des experts de sécurité qui ont fait une analyse de ce qui s'est passé. Et on a fait le choix de restaurer nos applications une à une. Et c'est là qu'effectivement, vous parliez du plan de reprise d'activité, de priorisation, ce qu'on doit mettre en œuvre pour restaurer. Eh bien, à la ville de Marseille, on applique ce qu'on appelle le RGS. On a classifié nos 400 applications suivant des critères, ce qu'on appelle DITC, disponibilité, intégrité, conformité et traçabilité. Et à partir de là, nous avons des indices et c'est ces applications-là qui nous permettent de dire une des premières applications que nous avons dû restaurer, c'est l'application des cimetières. Parce que malheureusement, le 13 mars, c'était, oui, la veille des élections, porte pression sur la collectivité. Malheureusement, on était en période aussi de Covid, donc il y a eu malheureusement aussi beaucoup de décès. Donc on nous a demandé, l'une des premières applications restaurées, c'était les applications des cimetières. Par conséquent, c'est plus lent, mais voilà, c'est un choix de la ville, ce qui a fait que notre système d'information a mis un temps certain pour revenir. Donc, de suite à cette cyberattaque, qu'est-ce que nous avons fait? En fait, maintenant, comme vous le disiez, on protège tout. On ne se pose pas de questions. Oui, c'est cher. Oui, c'est très cher. Mais je vous assure que lorsque vous êtes en pleine crise, des demandes, vous en avez de partout. Mais moi, je veux ci, moi, je veux ça, je voudrais rétablir ci. Même malgré le RGS, malgré tout ce qu'on avait préparé, il y a toujours ça panique. Donc maintenant, on met en place des requêtes dynamiques sur le système de sauvegarde Veritas. Et dès qu'une machine est allumée ou déployée, elle est sauvegardée. Ce qu'on fait aussi, c'est dupliquer les images sur plusieurs sites. Donc là, on est sur 2 sites. On est en train de travailler pour le mettre sur un 3e site avec en mode offline. Une chose aussi très importante, c'est que depuis le début, donc depuis plusieurs années, on s'était préparé à faire ça. Donc en fait, les agents de la collectivité sont formés à restaurer. On a une personne qui sauvegarde et on a 10 personnes qui sont en capacité de restaurer. L'idée, c'est quoi? C'est que justement, qu'ils n'aient pas peur de faire l'opération de restauration, que ce soit facile pour eux. Donc, c'est un process qu'on avait depuis plusieurs années. Donc, à partir du moment où on a décidé de restaurer permanent, on a pu paralléliser, démultiplier les restaurations. Effectivement, on parlait du disposer en ligne d'un snapshot, de son inventaire des serveurs et de ses mots de passe. Oui, parce que comme on disait, on est 99% sécurisé, donc nos mots de passe étaient aussi dans ce qu'on a perdu suite à cyberattaque. Le fait de l'avoir de manière offline, quand je parle offline, ça peut être en dehors du système virtuel, sur un poste de travail sécurisé, ça peut être sur qui est isolé, sécurisé, que vous connectez de temps en temps pour récupérer, pour avoir une image. Ça nous a permis d'avoir une visibilité et de pouvoir rapidement re-enchaîner les applications. Donc, ce qui en est surtout important, c'est aussi qu'on a créé des ruptures. Donc oui, les cyberattaques, oui, ils vont revenir. Oui, ils sont toujours là. Oui, on sera attaqué. Je ne veux pas vous faire peur, encore une fois. Mais vraiment, il faut se préparer. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on a dû tout reconstruire de zéro. On a dû reformater nos ESX. On a dû effacer des disques de données parce qu'on les était chiffrés et il fallait reconstruire de là. Et ne pas avoir peur de répéter. Voilà, je suis allé un peu vite, j'avoue. Et je vous rends la main, Pierre-Marie, pour toutes questions ou remarques.
Alors, moi j'ai moins de questions que nos participants. Allez, Fanny, quelles sont les questions?
Il y a une question. Alors, il y a une question dans le chat et il y a une question dans la zone questions. Vincent Poudin, ce qui demande si pas trop indiscret, alors que de l'agence service de paiement, si pas trop indiscret, comment le point de sauvegarde primaire a-t-il été attaqué? Le point faible qu'ils ont trouvé?
Intégration dans le domaine AD. En fait, nous avions des solutions qui étaient trop intégrées. Donc, à partir du moment, je ne sais pas si vous êtes au courant de la faille 0D de Active Directory, il est depuis patché, mais voilà. Donc, par conséquent, nos systèmes, le primaire a été intégré dans l'AD, et à partir du moment où ils peuvent prendre la main sur l'AD, donc, ça a de fortes conséquences. Depuis, c'est plus intégré.
Ça, c'est un conseil à suivre hein, aussi.
C'est à évaluer. Si vous respectez les recommandations de l'ANSI du tiers zéro, vous pouvez l'intégrer dans l'AD. Mais voilà, faut vraiment suivre les recommandations, c'est-à-dire un tiers zéro d'AD, c'est-à-dire que le domaine AD dans lequel vous mettez les puits provisoires et aussi vos administrateurs, il est complètement isolé de l'AD utilisateur. Enfin, voilà, l'ANSI propose une très bonne documentation là-dessus. C'est pas facile à mettre en œuvre, mais à partir du moment où vous respectez ces recommandations, là, vous pouvez imaginer une intégration. Depuis la cyberattaque, effectivement, malheureusement, pour mes administrateurs, bah, ils ont 7 ou 8 mots de passe. Et chaque fois, parce qu'il y a des ruptures. Parce que là, on avait tout intégré, tout était, enfin, dire, facile au quotidien. Eh bien, on a vu ce que ça a donné.
Un commentaire sur ce point-là, Daniel?
Non, mais moi, ce que j'ai entendu, effectivement, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été mises en place qui peuvent sembler simples, mais qui, au final, effectivement, créent un surcoût d'administration. Mais par exemple, M. Martinel vous a parlé de deux domaines de sauvegarde sur des technologies différentes. Et là, on va rentrer dans… Vous savez, je vous avais parlé tout à l'heure des bonnes pratiques de 3-2-1. Ben là, on est au début du 3-2-1, ça veut dire que… Deux supports de sauvegarde sur des médias différents, et typiquement c'était le cas, donc on n'avait pas forcément le même impact sur l'un et sur l'autre. Donc j'ai entendu effectivement ce genre de choses, j'ai entendu aussi effectivement d'avoir les ruptures, donc ces fameuses ruptures qui permettent à un moment donné d'être déconnecté quelque part, d'avoir quelque chose qui nous déconnecte et qui nous permette de reprendre. Et puis surtout vraiment ce qui m'a beaucoup interpellé, parce que c'est très très rare hein, honnêtement, c'est votre phrase, M. Martinez, sur le fait qu'une personne pour sauvegarder et 10 personnes pour restaurer. Parce que souvent, dans la réalité, c'est le contraire, en fait. Hein. La sauvegarde, c'est tous les jours, et la restauration, ça n'arrive qu'une fois de temps en temps, voire presque jamais. Mais le problème, c'est qu'effectivement, le jour où ça arrive, il faut être prêt. Et donc, ça, c'est vraiment une très, très bonne pratique. Je vois qu'on a une question sur le surcoût en ETP. Peut-être, Fanny, si tu veux introduire la question.
Oui, en fait, c'est une transition, Daniel, sur les deux questions de Karine Leroux et Léonore Covey, c'est comment envisager la cybersécurité dans le cas des petites collectivités avec de petites équipes informatiques. C'est vrai que ça laisse penser qu'il faut beaucoup de ressources. Après, c'est la balance, j'allais dire, bénéfice-risque. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que lorsque ça arrive, ça nécessite encore plus de ressources. Et ça peut coûter très cher. Le retour au service, il n'y a pas eu de perte de données. La ville de Marseille était plutôt bien protégée. Malgré tout, il a fallu repartir. Et là, ça nécessite quand même beaucoup de ressources et d'investissement et de temps. Et ensuite, donc, Aliénor Covey, pardon, approche budgétaire. Quel surcoût en ETP? Pendant les opérations de restauration, l'équipe doit décaler le calendrier du reste des opérations. Comment est-ce géré par la DGS? Voilà, donc ça revient effectivement. Alors, bon, je ne veux pas parler de surcoût, je ne saurais pas l'évaluer, mais on voit bien, je vais laisser peut-être M. Martinet pouvoir partager son expérience là-dessus, mais on voit bien l'impact hein, en termes de retour de service.
En fait, là, quand on parle les coûts sur la cyberattaque ou les coûts quotidiens de l'opération de restauration, parce que un des process qu'on a en œuvre chez nous, c'est que au moins une fois par mois, un projet qui constitue de différentes données et serveurs sont restaurés dans ce qu'on appelle une bulle et sur lequel on donne accès à l'équipe projet, aux utilisateurs pour qu'ils puissent faire au moins une recette fonctionnelle. Concernant le coût de la cyberattaque, je ne peux pas vous en parler. Il faudrait en parler auprès de ma direction et du DGS, parce que je n'ai pas été en relation directe avec lui. Et j'étais plutôt avec ma direction plus proche au 2SI.
Et quel est le temps que ça vous a pris pour restaurer?
On partirait sur une chiffre, quelques chiffres. Donc la DOF, je vous ai dit moins d'une semaine. Le PJI. Et le système de paye d'une dizaine de jours aussi. Et le reste, dans la continuité, donc un retour global en 2 mois.
C'est plutôt une performance, hein, parce que... Et finalement, vous n'avez rien perdu?
Non.
Bravo. Hein,
et je peux vous dire que des données à protéger, ce qui est très difficile, et ça, dans le cadre des collectivités, c'est de pouvoir... Parce que pour certains... C'est toujours leur donnée est toujours la plus importante.
Oui.
Pour tout le monde, c'est sa donnée, il n'y a que lui, c'est que sa donnée à lui. Ouais. Et c'est difficile de leur expliquer. Et justement, ma direction a fait tout ce travail parce que notre coordinateur en chef, nous, on était dans une bulle technique. Vraiment, on était vraiment dans une bulle technique où on a tout refait en paralysant tout. Et notre direction, elle, a temporisé.
Elle vous a protégé.
Voilà, elle nous a protégé, effectivement.
Protégé et... des utilisateurs. 400 applications métiers, donc 400 personnes qui devaient insister pour récupérer leurs données.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait.
On a de. C'est pour gérer, à Marseille. Oui, oui.
Donc voilà. Donc après on a su paralléliser, qui travaillait sur l'infrastructure virtuelle, qui travaillait sur la sauvegarde, qui travaillait sur. Sur l'audit, quoi. En fait, un autre truc aussi qui est aussi important, c'est vraiment, il faut, encore une fois, restaurer. Sauvegarder, c'est rien. C'est restaurer. C'est vraiment important.
Quand vous dites, et ça, c'est assez étonnant, hein, c'est ce que disait Daniel, que vous habituez vos agents à restaurer, comment ça se passe? Quelle est la fréquence?
Nous sommes sur une technologie virtuelle qui s'appelle VMware. Bon. Et toutes les technologies virtuelles proposent la possibilité, lorsque vous voulez dupliquer une application, ce qu'on appelle nous une VM, vous faites un clic droit, vous faites restaurer, et puis le système, l'hyperviseur le fait, le restaure. Ben ça, je l'interdis. Je dis ça, c'est vous ne faites pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu as besoin de reconstruire ton système, tu vas aller le restaurer. Pour ne serait-ce que pour gérer les environnements de validation d'aptitude, pré-prod, ce qu'on appelle pré-prod, prod, intégration et dev. Ça, chez moi, c'est interdit. C'est que ça les oblige, du coup, dans le projet, à restaurer ce qui était censé sauvegarder par ailleurs. C'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Ça, au lieu de faire en 5 minutes, ben, on le fait en une demi-journée. Mais au moins, on est certain que, un, c'est restauré. Et deuxièmement, si on veut pousser jusqu'au bout la torture, on va dire, on va le restaurer sur le domaine du deuxième site. Donc là, vous vous assurez que le triangle, il est fait.
Donc ouais, c'est, après, c'est ça. C'est... Vous obligez les gens à le faire eux-mêmes, hein, oui, plutôt qu'à laisser un système.
Ah oui, oui, ça fait partie de mon travail de manager de surveiller ça, ces pratiques-là. Dès que je vois qu'il y a ce qu'on appelle sur les consoles, ce qu'on appelle une opération de clonage, je vais demander une explication parce que c'est ça qui nous a sauvés, c'est sauvegarder, c'est surtout restaurer. Et si jamais, pour une raison XY, une application. Je prends l'état, j'ai pris l'exemple de l'état civil qu'on a fait récemment encore. Il se peut que les restaurations ne fonctionnent pas. C'est possible que ça arrive. C'est possible. Et donc, du coup, on évalue. Et ça nous permet aussi d'évaluer les fameux RPO, RTO, qu'on ne nous demande pas, mais qu'on a. Vous voyez, du coup, vous avez des tableaux de bord par rapport à chaque application. Ben, celle-là, j'ai mis 4 heures pour la restaurer. Celle-là, j'ai mis 8 heures. Celle-ci, elle n'a pas fonctionné sur le mois précédent. Mais si je peux me permettre, ça fait partie intégrante de la vie d'une application, d'être restaurée. Et de connaître ces RPO, RTO opérationnels, on parle. Après, on a le souhait. Certains vous diraient, je voudrais que ça soit restauré en quelques minutes. Et après, il y a l'opérationnel qui rentre en compte.
On serait dans l'armée, hein, on dirait, allez, apprendre à démonter et à remonter son arme, hein, rapidement.
C'est la guerre, hein. Je n'ose pas vous faire prendre non plus, mais actuellement, les cyberattaques, c'est la guerre. Hein.
Ouais.
C'est la guerre, c'est le chaos.
Le chaos, bon. Bien.
Et est-ce qu'on imaginerait une équipe sportive qui ne s'entraînerait pas avant de faire le match, finalement?
Ouais, voilà, c'est pas naturel. Notre travail consiste à réellement à fournir un service et à nous administrer, bon, okay, et ne pas perdre leurs données et les protéger. Et effectivement, ce qui guette la ville de Marseille maintenant, parce que suite à cette cyberattaque, la première attaque qu'on a eue, je pense qu'on n'aura plus, c'est la perte de données. Oui, c'est le vol de données.
Oui, parce que là, vous n'en avez pas perdu, mais est-ce que vous savez si on vous en a volé?
Je pense qu'on nous en a volé. Mais je n'ai pas les valeurs typiques parce que, effectivement, je réponds du questionnaire, non, je n'ai pas une visibilité totale sur toutes nos données.
Très bien. Alors, d'abord, vous avez des félicitations dans le chat. Hein.
Ouais,
ça, je crois que vos collègues, ils semblent dire chapeau. Hein. Fanny, vous qui voyez beaucoup de clients secteur public en France, vous en avez vu des aussi bien organisés que la ville de Marseille?
Non, je dois dire que c'est assez rare, des clients qui ont cette sensibilité. En fait, qu'on entend beaucoup, hein, c'est oui, on est conscient du risque, on est conscient de l'importance de notre de données, c'est le cœur même de notre organisation, c'est ce qui plus de valeur aujourd'hui, mais les deux choses qui reviennent, c'est j'ai d'autres priorités avec une vision extrêmement court terme et j'ai pas forcément les budgets. Donc, pour composer avec ça et pas forcément les ressources. Donc, puis, hein, on parlait tout à l'heure, il parlait des ETP. Oui, c'est une réalité. Il y a aussi un manque de ressources. Donc, il faut arriver à composer avec tout ça. Et c'est ce qu'on essaye, nous, au quotidien, de faire, c'est d'accompagner nos clients pour justement arriver à sécuriser, à protéger au maximum leur environnement tout en tenant compte de leurs contraintes liées à leur contexte budgétaire et ressources.
Oui, ça, l'expérience dont vous venez nous faire part, ça se recoupe assez bien avec un des résultats de l'étude dont parlait Daniel tout à l'heure. Hein. 15% des, hein, Daniel, 15% des personnes interrogées affirment que leur organisation suit les pratiques d'excellence, mais 60% reconnaissent qu'ils ne sont pas prêts. Quoi. C'est-à-dire que je sais, mais c'est de la pensée à l'action. Là, il y a une petite perte en ligne. Monsieur Martinet.
Je ne pense pas qu'on suit, personnellement, je ne pense pas, parce que j'aimerais bien qu'on fasse plus encore. Je ne pense pas qu'on suit des bonnes pratiques aujourd'hui dans notre collectivité.
Quand même.
Oui, mais quand même, quand vous avez des demandes de style, je sais pas, quand vous avez des demandes de style d'ouverture de flux vers l'extérieur, c'est un flux potentiellement vers une perte de données. Et qu'on essaie d'expliquer que pour des raisons X, Y, on avait choisi ce produit pour faire, parce qu'on a une visibilité dessus, parce qu'on a de l'audit, parce qu'on a une traçabilité, et qu'on nous arrive et qu'on nous mette une pression, bon, je ne dirais pas de qui, de quoi, dans une collectivité, hein, je suppose que vous l'imaginez, et ben, le SCC, il a du mal. Voilà. Et ça, peut-être que justement, le cran du dessus, c'est de sensibiliser maintenant nos décideurs au plus haut niveau.
C'est assez juste ce que vous dites, Monsieur Martinet, parce que c'est vraiment pour le coup le quotidien, c'est ce qu'on rencontre quand on échange avec nos clients, c'est qu'il y a une sensibilisation à faire, une éducation encore à faire à ce sujet. Et il y a un petit peu cette notion finalement d'assurance. On dit, oui, mais finalement, ça a toujours fonctionné jusque-là. Hein. Pourquoi j'ai fait investir dans ces solutions puisque j'ai jamais eu de problème et que ça fonctionne. Et voilà. Donc, il faut en arriver à une situation de crise pour qu'il y ait une vraie prise de conscience. Et c'est ça qu'il faut arriver à changer pour éviter d'arriver dans une situation de crise. On en entend de plus en plus parler dans les médias. On se rend bien compte que ça peut avoir, ça peut être assez grave. Donc, il y a une sensibilisation qui arrive, mais on est encore loin.
Mais je pense qu'il y a un truc vraiment que j'ai aussi que M. Martinet a dit tout à l'heure qui était intéressant, enfin tout était intéressant, mais là aussi c'est souvent passé inaperçu, c'est de dire que restaurer fait partie de la vie de l'application en fait. Et je pense que si on arrivait à changer un peu les mentalités, restaurer c'est trop perçu encore comme un mal nécessaire et un peu un truc dont on ne veut pas parler parce que c'est toujours quelque chose qu'on fait après un échec, que ce soit un échec de production, un échec humain ou quelque chose. Et en fait, ce qu'il faut arriver vraiment à changer, c'est que dès le début, en fait, la protection, la donnée, donc là, du coup, j'intègre la sauvegarde et la restauration, fasse partie intégrante de l'application et de se dire comment on peut la valoriser, entre guillemets, et je ne parle pas forcément d'argent, mais de service, en termes de service, comment on peut la valoriser plutôt que de la traîner un peu comme un boulet en priant pour que ça n'arrive jamais. Et le jour où ça arrive, on n'est pas vraiment prêt. Donc, je pense que c'est vraiment... Moi, si j'arrivais à pouvoir pousser un message au niveau des décideurs, c'est vraiment de se dire... Parce que c'est trop courant encore aujourd'hui, c'est de se dire, une fois qu'on a décidé d'une application nouvelle et d'un service, et puis juste avant de la mettre en production, souvent, au fait, et la sauvegarde. Et c'est souvent ce qui se passe. Hein. Alors qu'en fait, dès le début, ça devrait en faire partie, en fait. Ça devrait être pensé comme partie intégrante de la vie de cette application.
Allez-y. Effectivement, oui. Effectivement, en réunion de lancement d'un projet, un des premiers paramètres, et je parle en termes de technique, hein, c'est RPO, RTO. Qu'est-ce que vous acceptez de perdre comme données, en quel temps, et combien de temps vous comptez la restaurer? Et à partir, si on applique ne serait-ce que ça à tous les projets, on y verrait beaucoup plus clair. Oui.
Et il y a une dernière notion à ajouter à ça, et ça, on en sera à la phase ultime, c'est quel est le cycle de vie de la donnée de votre application et de votre métier. Parce qu'on dit depuis tout à l'heure qu'on a trop de données, qu'on doit la protéger et que ça peut être fastidieux, etc. etc. Mais en fait, il faut aussi inclure ce cycle de vie. Quand est-ce que la donnée naît? Quand est-ce qu'elle vit? Quand est-ce qu'elle est informative? Quand est-ce qu'elle devient inutile? Si elle devient inutile, il faut la détruire. Elle peut être dans ces cas-là être morte. Alors, c'est pas vrai pour toutes les données. Mais à partir du moment où on a mis tous ces concepts-là autour de la table, on peut appliquer les bonnes pratiques. Et on parlait de surcoût depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que ça entraîne? Qu'est-ce que ça ajoute? Mais qui imagine aujourd'hui acheter une maison et ne pas avoir d'assurance? Qui imagine monter dans une voiture et ne pas mettre sa ceinture? En fait, il y a 15 ans, on disait, mais j'ai jamais eu d'accident, pourquoi je mettrais ma ceinture? Oui, mais l'accident, il peut arriver, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il peut arriver à tout instant et on doit être protégé sous cette forme-là.
Très bien. En tous les cas, moment très intéressant d'abord parce que cette honnêteté et cette volonté que vous avez de partager votre expérience, M. Martinet, est tout à fait louable, très instructive. Et puis, cette idée, évidente en soi, hein, mais qui était bon de rappeler, c'est que la restauration, ça fait partie de la vie de l'application et qu'il faut restaurer. Alors, j'ai vu que vous les torturiez en les empêchant d'utiliser les systèmes pour restaurer, faire les choses à la main. Bon, eh bien, écoutez, courage à toute votre équipe. On continue, on va voir ensemble et puis commentez vous aussi, Monsieur Martinet, et puis vous tous, hein, vous servez du chat et des questions. Amaury, vous avez là, allez, on découvre ensemble les résultats du dernier tiers des questions posées dans notre sondage.
Alors, j'ai presque été trop vite, finalement, dans les précédentes. Et donc, on pourrait presque toutes les reprendre, mais on a déjà passé beaucoup de choses sur ce sondage. Et ça rebondit sur l'intervention de M. Martinet. Combien de fois testez-vous votre plan de reprise dans une année ? Une fois. On en parlera un petit peu plus tard, hein, finalement, dans l'intervention que je vais poursuivre. On a déjà abordé beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Mais effectivement, ça, c'est la chose la plus importante. Une fois par an, alors souvent, c'est à l'Ascension ou au 15 août, je teste mon plan de reprise. Il faut savoir que ce plan de reprise, à partir du moment où il a été testé, quelques semaines plus tard, il est peut-être déjà devenu obsolète parce qu'on a provoqué des changements. Et puis, et à nouveau, c'est fastidieux, mais on l'a vu il y a encore quelques jours, on regarde sur cybermalveillance.gouv.fr, les failles zéro day, c'est finalement une des failles de sécurité les plus critiques. Et je vous parlais d'un gros industriel il y a pas longtemps, il y a 2 ans maintenant, qui était tombé, c'était des mises à jour OS qui n'avaient pas été faites parce qu'on se disait, oh, on les fera à la fin du mois, oh, il faut redémarrer les serveurs, oh, c'est compliqué. Et pourtant, c'est extrêmement important d'appliquer effectivement les failles. Je ne sais pas si vous avez vu, on utilise tous aujourd'hui un Explorer pour être à cette session. Il y a eu une alerte sur un Explorer, un très gros Explorer du marché à mettre à jour très rapidement parce qu'il pouvait exploiter des failles de sécurité. Je pense que les tests et les mises à jour régulières sont des choses très, très importantes dans ce cas-là.
Juste pour illustrer ce que tu viens de dire, Amaury, l'une des attaques les plus connues était celle de WannaCry. WannaCry a pris autant d'importance parce que justement les mises à jour Windows n'avaient pas été faites pour la plupart, alors que le correctif était disponible déjà depuis 2 mois par Microsoft.
Oui, je vois que Monsieur Martinet, à la fois on vous félicite, hein, et puis vous êtes prêt à continuer à échanger. Vous voulez bien mettre dans le chat votre adresse mail pour que les différentes personnes puissent vous poser des questions, continuer cette conversation avec vous. Je crois que vous allez avoir du courrier. Bon, alors dernière partie, Amaury. Vous vouliez nous parler de gap de résilience et des choses qu'il fallait faire pour le combler. Allez, vous avez 10 minutes là pour partager avec nous votre dernière intervention.
On l'a évoqué effectivement, et je crois que j'ai même par certains aspects l'impression que je vais répéter des choses qui ont été dites et redites ce matin, notamment par Monsieur Martinet, mais effectivement, pour combler ce gap de résilience, la protection, entre guillemets, ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est protéger toutes les données. Pas forcément avec la même priorité, elles n'ont pas toutes la même valeur. Et d'ailleurs, si on sait reconnaître ces données, on va pouvoir se séparer d'une partie de celle-ci. Mais il faut protéger toutes les données partout. Et je le voyais, une des questions, je ne l'ai pas encore évoquée, aujourd'hui, uniquement 10% des répondants à notre sondage, utilise un système WORM, donc indestructible, de collecte de ces données. Si on n'a pas ce système-là ou la possibilité de mettre en place ces systèmes-là, eh bien, si c'est la sauvegarde qui est attaquée en delà et en deçà des systèmes primaires, eh bien, effectivement, notre assurance, finalement, n'a servi à rien et est complètement inefficiente. Et puis, surtout, il faut avoir des systèmes qui sont capables de grossir avec nous. Vous l'avez évoqué, M. Martinet, vous avez aujourd'hui 400 applications, vous en aviez peut-être que 50 il y a 10 ans. Et il faut avoir un système qui est capable de grossir et d'appliquer les mêmes procédures à un petit environnement qu'à un environnement industriel complexe, énorme et pourquoi pas régionalisé. Et puis la deuxième chose, et on le disait aujourd'hui, ceux qui ne savent pas qu'ils sont attaqués, c'est parce qu'ils n'ont pas d'outils pour le détecter. Et donc, il faut être capable, au plus tôt, de détecter les menaces. Il faut être capable de détecter à quel moment notre donnée était intègre et elle ne l'est plus. Et il faut regarder tous azimuts. Alors, bien sûr, il faut surveiller les flux, le réseau, les infrastructures. Mais malheureusement, il faut également monitorer les utilisateurs et leurs usages de façon à s'assurer qu'il y a un usage légitime qui est fait. Et je parlais tout à l'heure du partage sur un OneDrive de données sensibles et qui n'ont rien à y faire. Imaginons dans une CAF un échange de données personnelles sur un OneDrive, ça serait complètement inapproprié et inadéquat. Et puis enfin, une fois que l'incident arrive, il faut être capable de récupérer, de redémarrer avec le système de protection qu'on a mis en place. Et ça, ça passe par de l'orchestration. Il est hors de question aujourd'hui, et on le voit avec vos 400 applications, de se dire « je vais prendre ma feuille de papier et ma procédure et réappliquer point par point ce que j'ai testé, malheureusement, des fois, il y a un an ». Non, il faut avoir des systèmes qui vont pouvoir effectivement, pan par pan de l'infrastructure, redémarrer sous contrôle, et ce qui va nous permettre d'ailleurs, par période, d'utiliser ces systèmes d'orchestration pour tester, pour valider et mesurer. Et en fait, avec ces outils d'orchestration-là, on va être capable donc de minimiser les fameux temps d'arrêt. Ces temps d'arrêt qui finalement peuvent être aussi critiques. L'hôpital de Dax aujourd'hui, peut-être qu'il n'a pas perdu ses données, peut-être qu'il a un moyen de revenir, mais il est arrêté. Et ça, pour les personnes de Dax, c'est effectivement extrêmement problématique. Et donc, je l'évoquais, la stratégie se passe en trois pans, protéger, détecter et restaurer, restaurer, redémarrer. Et finalement, il faut avoir une protection de tous les instants et à tous les niveaux. Et il faut surtout ne pas considérer qu'un îlot, qu'un espace qui n'est pas protégé, effectivement, parce qu'il est tout petit, ne peut pas représenter, ne peut pas finalement être une menace pour l'ensemble du système. Parce que, comme vous l'évoquiez, finalement, un seul petit flux ouvert pour une petite application peut être un point d'entrée et effectivement compromettre l'ensemble de l'infrastructure. Et il faut être prédictible, il faut être capable, d'abord dans les temps de restauration, évidemment, mais dans la détection des menaces, effectivement pouvoir prédire quand va apparaître le problème. Et ça peut être tout simplement par l'observation de l'usage. Si on a un outil qui est capable de dire qu'aujourd'hui, il y a 1 million de fichiers qui ont été modifiés par rapport à la veille, l'avant-veille ou la précédente période, ben peut-être qu'on est victime de quelque chose. Alors bien sûr, ça peut être une migration d'un espace A vers un espace B, mais si on a un outil de détection qui voit qu'on a 50% de nos données qui viennent d'être modifiées aujourd'hui, que ça dépasse un seuil acceptable d'usage habituel, eh bien ça veut dire qu'on est peut-être face à une menace, et notamment une menace de ransomware et de cryptographie des données qui est en train de se produire. Si on la détecte le plus tôt possible, on est capable de l'arrêter le plus tôt possible en bloquant les systèmes, en bloquant le serveur concerné, etc., etc., etc. Et ça, il faudrait pouvoir le faire avec le moins d'acteurs. Parce que moins d'acteurs on a et moins d'interconnexions on est obligé ou de zones grises sur lesquelles un acteur ne se positionne pas. Et donc, avoir un acteur majeur qui est capable de couvrir l'ensemble des systèmes. L'idée, c'est d'avoir une bonne compréhension, d'être en rapport avec les normes qui ont pu être définies, notamment par l'ANSI, et surtout une plus grande sécurisation. Et pour ça, il faut être capable de mettre en place un backbone de protection, ce que moi j'appelle une colonne vertébrale finalement de protection, parce que les sources de données, elles sont multiples. Elles sont matérielles, bien sûr, mais elles sont applicatives, elles sont métiers, elles peuvent être virtuelles, elles peuvent être cloud. Et si on a pour chacun un acteur différent de protection, eh ben, on dilue l'investissement, on dilue la connaissance. Et finalement, on est obligé d'investir plus pour essayer de protéger plus, voire de protéger mieux. Et on le voit, aujourd'hui, 50% de nos répondants ont plus d'un outil, et donc potentiellement plus d'une équipe pour réaliser cette partie-là. Et l'intérêt d'avoir la possibilité de monter un acteur unique en tant que colonne vertébrale, que ce soit matériel, logiciel, ou basé d'ailleurs sur les solutions cloud, mais avoir la possibilité d'avoir une console unique de ces pilotages-là, ça va aussi faciliter les métiers. Et M. Martinet le propose, il dit, voilà, je veux que les équipes métiers sachent restaurer. Eh bien, si elles ont une console qui peut leur être dédiée d'accès métier à cet environnement-là, eh bien, effectivement, ça va faciliter énormément les actions, la répétition, l'entraînement de façon à être prêt le jour où la problématique arrive. Alors, détecter, c'est évidemment avoir des solutions. Si on veut détecter, il faut monitorer, il faut regarder et avoir un outil indépendant des assets que l'on monitore, de façon effectivement à pouvoir avoir une zone d'analytique claire et de pouvoir avoir des rapports. Alors, ça peut être des rapports en direction évidemment de la hiérarchie, c'est très important de pouvoir leur montrer, de pouvoir leur expliquer ce que l'on fait, mais également avoir des rapports à notre direction pour savoir si on est dans les bonnes pratiques et si on n'a aucune déviance. Et quand on voit qu'aujourd'hui, effectivement, on a énormément de modes d'usage, plusieurs solutions, plusieurs zones de stockage, plusieurs clouds, pourquoi pas, qu'ils soient publics ou privés, eh bien, si on n'a pas un moyen unique d'analyser, eh bien, forcément, on va avoir des trous dans la détection et donc, on aura des risques qui vont augmenter. Et effectivement, cette zone, ce gap qui va augmenter, puisque ne pas voir, c'est effectivement ne pas savoir. En plus, à partir du moment où on a une visibilité beaucoup plus globale, on va pouvoir optimiser beaucoup plus simplement les choses. On l'évoquait tout à l'heure, oui, mais quel est le surcoût de la protection, quel est le surcoût de la résilience? Ben, si on veut avoir une bonne résilience, il faut bien voir. Et si on veut bien voir, on peut à ce moment-là correctement optimiser nos infrastructures. Imaginons que vous détectiez que vous avez sur vos zones de stockage des données qui n'ont pas été modifiées depuis 10 ans. Ça a peut-être du sens, mais peut-être que effectivement, c'est peut-être insensé de garder ces données, vous allez pouvoir prendre des actions de remédiation et de destruction. Et donc, potentiellement, récupérer alors de l'espace dans votre infrastructure, récupérer des facilités de protection et potentiellement même avoir des optimisations budgétaires fortes. Et ces optimisations, pouvoir les réorienter vers la sécurisation ou vers de nouveaux métiers et de nouveaux projets. Et c'est là que c'est effectivement très important d'avoir une visibilité, parce que si on ne fait pas de choix éclairés, on ne peut pas avoir de réponse intelligible et intelligente à proposer dans ce cadre-là. C'est tout l'enjeu de la détection. Bien sûr, la détection de menaces. Bien sûr, la détection de menaces. Mais la détection et la visibilité au sens large des infrastructures et des assets. Et puis enfin, et ça, c'était des constats qu'on finalement on a repris et qu'on a déjà vu, ça correspond au fameux 15%. Et finalement, on s'aperçoit que seulement 15%, et c'est peut-être les mêmes qui se sentent bien protégés dans leurs infrastructures, seulement 15% des répondants à cette étude ont testé leur plan de recovery dans le mois précédent. Et quasiment la moitié ne l'ont pas fait dans les trois derniers mois. Si en plus, ce n'est pas basé sur des zones d'orchestration, eh bien, finalement, on s'aperçoit que du plan de reprise, on est quasiment sûr qu'il n'ira pas au bout et qu'on ne pourra pas redémarrer correctement. Et donc, on sera à la merci, si on part des cybermenaces, on sera à la merci de devoir payer une rançon. D'autant plus, et là, les répondants ne le feront pas, mais malheureusement, même quand on paye une rançon, les cybercriminels ne nous rendent pas forcément la donnée, et en tout cas, ne nous la rendent pas dans un état correct et utilisable. Donc, maximiser la résilience, c'est trois points. C'est augmenter la visibilité. Ce que vous ne savez pas ou que ne connaissez pas, vous ne pouvez pas le couvrir correctement. C'est se préparer par de l'entraînement, mais avoir des outils d'orchestration qui sont capables, d'autant plus qu'aujourd'hui, les applications et les métiers sont extrêmement imbriqués, être capable de redémarrer des systèmes avec une très, très grande orchestration, un redémarrage priorisé qui va dépendre des niveaux de service qu'on aura définis avec nos utilisateurs et avec nos métiers pour pouvoir prioriser et dire, évidemment, tel métier doit redémarrer plus vite. Vous parliez des cimetières tout à l'heure ou de l'état civil. Effectivement, peut-être que ça a vocation de redémarrer plus vite que la facturation de la cantine des enfants. Et tout ça, en maximisant la résilience, ça va nous permettre d'éliminer, peut-être qu'on n'éliminera jamais totalement le risque, mais en tout cas, de faire énormément baisser le niveau de risque auquel on s'expose. Les bonnes pratiques, c'est de définir des niveaux de service, c'est tester, valider, restaurer, et c'est se préparer en automatisant et en orchestrant les systèmes. C'est la meilleure façon d'avoir une très haute résilience. Plus on automatise, plus on teste cette automatisation, et plus on définit les priorités entre ce qui doit redémarrer vite et ce qui doit redémarrer de façon sûre, eh bien, effectivement, on va avoir le plus haut niveau de résilience possible. Et finalement, on va rapprocher ces deux courbes. On va réduire ce gap de résilience entre la transformation numérique et les protections et le retour de l'information. En réduisant ce risque, on réduit drastiquement la cybermenace. On réduit les temps d'arrêt. Parce que si on sait redémarrer vite, les temps d'arrêt, évidemment, seront proches de zéro. Il y a des moyens pour les approcher de zéro. Là, effectivement, c'est une question budgétaire et d'investissement. Et puis, la perte de données, qu'elle soit au travers d'une cybermenace ou au travers d'une corruption de données, est extrêmement importante. Fanny, je vais te laisser conclure avec cette slide-là. Aujourd'hui, on est un des acteurs de la résilience. Fanny aime beaucoup à dire on a énormément de brevets qui sont développés en permanence par nos équipes. Tu veux en dire quelques mots, Fanny ?
Oui, bah écoutez, je tu m'as eu, mais non, Veritas est un éditeur qui est spécialisé dans la gestion de la donnée, est leader sur ce secteur depuis maintenant pas mal d'années, puisque notre date de création est de 1983, nous sommes reconnus comme leader sur la protection de la donnée pour la 15e année consécutive au Gartner, que nous avons puissance vraiment R&D assez importante, puisqu'on a 50% de nos effectifs qui sont dédiés dans la R&D et à peu près 20-25% de notre chiffre d'affaires qui est réinjecté dans la R&D. Et on a une, comme l'a dit Pierre-Marie tout à l'heure, une forte présence sur le secteur public. On a donc une offre assez complète et assez large, là, en tout cas la plus complète du marché autour de la gestion de la donnée, qui permet de couvrir l'analyse et la visibilité de la donnée, la protection de cette donnée et puis sa résilience, comme vient de le présenter Amaury, qui sont, je pense, les trois bonnes recette pour se protéger contre ces menaces. Je te laisse la parole, peut-être, Pierre-Marie, on a 1h30. Alors, on t'entend pas, tu es en muet. Non, on t'entend pas, Pierre-Marie.
Alors, ah, ça va aller. Voilà. On doit dire qu'on doit rendre l'antenne, allez, mais on a quelques minutes. Allez, on joue les arrêts de jeu. Daniel voulait redire quelque chose ?
Non, je pense que ça a été très complet. Bah déjà, effectivement, je trouve que les échanges ont été intéressants. Déjà, j'ai apprécié qu'il y avait une participation et des questions. Évidemment, le témoignage de M. Martinet, vraiment, qui est pour moi la partie la plus importante de cette matinée, puisque c'est du concret, quoi. C'est au-delà de toutes les discussions qu'on peut avoir autour d'une table. Mais là, c'est du vécu, aussi bien en amont qu'en aval de l'expérience. Donc voilà, n'hésitez pas, je pense que vous aurez nos contacts, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, de nous recontacter, ça sera toujours avec un plaisir.
Voilà, d'ailleurs, à ce sujet-là, Fanny, Daniel et Amaury, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat vos adresses mail respectives, de façon à ce qu'on puisse vous recontacter? Alors sachez que tout ce qui s'est… vous pouvez retrouver, puisque vous avez été inscrit dans ce webinaire, vous pouvez retrouver un replay du webinaire sur la plateforme Livestorm. Je dis ça aussi pour les gens on leur enverra un mail d'ailleurs, qui s'étaient inscrits mais qui n'ont pas pu participer ce matin. Donc ce replay est disponible. Évidemment, moi je vous engage à continuer la conversation avec Maurice Martinet, que je dois tout spécialement remercier pour sa transparence, hein, et son désir de partager une belle expérience. Ils l'ont tous fait, hein, dans le chat. Alors, j'ajoute les félicitations de la maison acteur public. Zéro perte de données, 2 mois pour restaurer un système aussi considérable que celui que la ville de Marseille entretient. Vraiment, chapeau. Et puis alors, on gardera tous en mémoire, hein, cette petite phrase, hein. La restauration, ça fait partie de la vie de l'application. Voilà. Merci à vous tous. Une petite annonce. Veritas organise un prochain événement le 23 et le 24 février, le Veritas Conquer Every Cloud. Ah ben voilà, ça s'affiche, c'est super. Every Cloud, toutes les clés pour transformer, protéger et optimiser votre organisation avec et dans le cloud. Vous retrouverez dans cette super production les mêmes acteurs qu'aujourd'hui, j'imagine. Hein. Toute l'équipe secteur public de Veritas qui est à la disposition, et on le voit, Veritas tend des grands ministères que du monde hospitalier et des collectivités. Il y avait cette question de Karine Leroux. J'ai regardé, vous êtes de la GLO de Saint-Lô, et je crois que Fanny ne me démentira pas. Veritas sait se mettre à la portée de petites comme de grandes collectivités.
Absolument, il n'y a pas de distinction. À partir du moment où on touche à la sécurité, la criticité est la même, que ce soit des organisations, peu importe la taille de l'organisation. Je voudrais ajouter une petite chose, Marie, c'est que finalement, ce webinaire du 23 et 24 février pourra peut-être répondre en partie aux questions de Monsieur Garcia tout à l'heure au sujet de la protection des données dans le cloud et de la nécessité et de la possibilité d'avoir un PMA.
Voilà. Frédéric Garcia sera le premier invité.
Voilà.
Allez, à vous tous, les amis. Merci pour votre attention. Merci pour ce moment très instructif, Monsieur Martinet. À tous, une très bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire de Veritas Technologies. C'est, vous l'avez vu, toujours un plaisir. Bonne journée.
Merci à tous.
Au revoir. Bonne journée à tous.
Au revoir.